le 5 novembre 85.
Cours de philosophie politique, alors on en fait le second maintenant. Parce que c'est le cours qui régulièrement tombe quand on ne peut pas faire tous. Alors, je ne reviens pas sur ce que je vous avais dit la dernière fois pour en vous rappelant ce que nous avions fait l'année dernière et en montrant la complexité du problème. Hein. La philosophie politique, ce n'est pas faire de la politique, c'est réfléchir sur ce que représente la philosophie communautaire poussée à l'extrême, le point de vue de l'État. Alors, l'année dernière, nous avions commencé à voir quelques grands aspects d'une topique historique sur le point de vue de la philosophie politique. Il y en a un qu'on n'avait pas vu et qui pourtant est important. C'est la naissance de cette philosophie du libéralisme avec John Locke. Alors, je vous avais dit quelques mots déjà en vous rappelant ce que dit Jean-Jacques Chevalier dans son tome 2 de l'histoire de la pensée politique. Il situe admirablement, avec un peu d'humour, ce retour de John Locke en Angleterre après un exil dans les Pays-Bas. Donc, né en 1632, Locke est donc âgé à ce tournant capital de sa vie de 56 ans, l'âge politique. Lui aussi regagne sa patrie, dont il a dû s'exiler pendant plusieurs années. Il rapporte dans ses bagages divers manuscrits destinés à faire un grand et durable bruit dans le monde. Je ne sais pas si c'est la destinée. Ce en vue de quoi on écrit un livre pour que ça fasse du bruit. Alors, et c'est vrai que ça a fait une petite bombe. C'est d'ailleurs seulement à partir de ce retour qu'il va faire carrière d'écrivain et publier. Tant sous l'anonymat que sous son nom, ses ouvrages marquants sont L'essai de l'entendement humain. C'est 190, c'est ce que nous allons voir. C'est plus important au point de vue philosophique. C'est très intéressant comme un livre de critique. Donc, Essai sur l'entendement humain, 1690. Les lettres sur la tolérance, c'est aussi intéressant, 1689. Sans nom d'auteur, du reste. Les deux traités du gouvernement, sans nom d'auteur. Quelques pensées sur l'éducation, 1693. Le christianisme rationnable, ou le christianisme raisonnable, pardon. Sans nom d'auteur, 1695. Alors, christianisme, on acceptera, la foi sera mesurée par la raison. Vous comprenez bien. C'est pour ça qu'on peut dire christianisme raisonnable. L'autre n'est pas raisonnable. Il faut rester à un niveau raisonnable. Alors, je vais dire quelques mots sur l'essai de l'entendement humain. C'est un livre facile à lire, hein, pas grosse difficulté, mais comme vous verrez, très intéressant et très caractéristique. C'est un retour à Aristote. C'est intéressant. Donc, au milieu d'une crise, tentative d'une reconstruction intellectuelle, en abandonnant ce qui est vain, c'est-à-dire la métaphysique et la théodicée, ce qui est sentiment philosophique. On est en pleine crise intellectuelle, il faut reprendre tout. Et reprendre tout avec la taille du père. Une taille fameuse. Alors on va supprimer tout ce qui est vain, tout ce qui est de l'ordre du sentiment philosophique. Ce qui est de l'ordre du sentiment philosophique, c'est évidemment la pauvre métaphysique et la théodicée. Le temps est venu de ne regarder que ce qui regarde directement la conduite de notre vie, ce qui lui est utile, C'est parallèle aux stoïciens. C'est très curieux. En temps de crise, on veut sauver l'homme. On comprend. Sauver l'homme, c'est sauver l'homme dans sa direction humaine. Et sauver l'homme d'un point de vue moral. Et le point de vue moral des temps de crise, évidemment, il faut avoir de la volonté. Soyons stoïciens. École stoïcienne. L'image du pilote qui voyage en mer. Il est anglais, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas ? Donc l'image du pilote qui voyage en mer avec sa sonde, il ne veut pas tout connaître. C'est très amusant. Hein. Il voyage en mer avec une sonde. Il faut faire attention, donc, pour voir exactement où il est, hein, pour ne pas. Donc il ne peut tout connaître, mais ce qui est nécessaire pour éviter les bas-fonds. Il n'a besoin que de savoir que le cordeau de sa sonde est suffisant pour cela. Voilà ce qu'il va chercher. Alors, voilà l'application. On va rechercher la règle pour laquelle une créature raisonnable, l'homme, dans l'état où il est dans ce monde, peut et doit conduire ses sentiments. Et les actions qui en dépendent, sans s'inquiéter de ce qui échappe à notre connaissance. L'entendement humain est cette sonde. Il faut en savoir exactement la longueur pour conduire notre vie. Mais cette attitude réflexive, connaître exactement quelle est la mesure de la connaissance humaine, pour savoir que nous pouvons faire, ce que nous pouvons faire. C'est exactement l'attitude des stoïciens. Savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on doit faire ce qui échappe complètement à notre pouvoir. Il faut donc connaître la force de notre esprit. Voir ce qui est proportionné à sa capacité. Et manquer et marquer les limites de la certitude de nos connaissances. Dicter les fondements des opinions qui règnent sur les hommes. Trouver les bornes qui séparent dans les objets à connaître la partie obscure et impénétrable et la partie lumineuse. Dans tous les objets, il y a quelque chose qui parle à notre intelligence et quelque chose qui n'est pas, qui échappe à notre intelligence. Donc il faut trouver ça. C'est le but, vous voyez. Réflexion critique extrêmement pratique. Les réflexions critiques. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas dire? Locke lutte contre tout dogmatisme, contre tout scepticisme. Donc il essaie de prendre une attitude, si vous voulez, contre le dogmatisme et contre le scepticisme. Il essaie de retrouver, il s'oppose à l'un et l'autre, car l'un et l'autre conduit à l'oisiveté et à l'inaction. On comprend très bien. Le dogmatisme, c'est dit. Vous voyez, Merleau-Ponty dit, disant, en face d'un catholique, ça ne va pas du tout, parce qu'il sait déjà. Donc il n'y a plus de recherche. Il faut maintenir la recherche. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on va passer entre le dogmatisme et le scepticisme. C'est assez juste comme position. Hein. Au point de vue philosophique, ne l'oublions jamais, cette fameuse parole de saint Thomas, hein. Au point de vue philosophique, l'autorité est la dernière des raisons. Donc, que le philosophe, comme philosophe, lutte contre tout dogmatisme, c'est bien évident. Contre le philosophe, comme philosophe, lutte contre tout scepticisme, c'est bien évident. Parce qu'il essaie de chercher ce que l'intelligence humaine peut dire. Oui. C'est intéressant, c'est vrai cette attitude-là. Il y a quelque chose de juste, ce qui est plus difficile, c'est ce qui va venir après. Mais au point de vue réaction, contre un moment de crise et difficile, c'est intéressant à bien voir. Les connaissances des forces de notre esprit et de ses bornes suffit pour guérir du scepticisme et de la négligence où l'on s'abandonne lorsqu'on doute de pouvoir trouver la vérité. Surtout pas cette attitude de celui qui est sceptique et qui dit qu'on ne peut pas découvrir la vérité. Il veut procéder d'une manière claire et historique pour voir comment l'entendement se forme des idées. Voilà la grande question. L'entendement a des idées, comment se forment ces idées? C'est tout à fait une question critique. Hein. Chercher l'origine de nos concepts. Comprendre dans le comment de la réflexion comment telle idée est arrivée. Ce qui lui fait rejeter toute entrave d'une tradition philosophique, car la philosophie, qui est la véritable connaissance des choses, répugne à toute attitude traditionnelle, car il rejette tout a priori. Locke, c'est juste. Le vrai philosophe doit rejeter tout a priori. Le vrai philosophe ne s'appuie pas sur une tradition philosophique. Il n'y a pas de tradition philosophique. Vous voyez, il peut y avoir des écoles, mais il faut que chacun redécouvre. C'est intéressant comme attitude de retrouver quelque chose qui soit sain, S-A-I-N, qui soit quelque chose de juste. Il se veut un simple ouvrier chargé de nettoyer un peu le terrain, l'assainir. Il veut écarter une partie des vieilles raisons qui arrêtent et qui empêchent le progrès. Supprimer tout cela, le support, le vieux grenier dans lequel il y a des tas de choses. Il regarde l'esprit humain comme tabula rasa. Table rase, l'expression d'Aristote qui est reprise. L'esprit humain au point de départ et tabula rasa. Et c'est pour ça qu'il faut rejeter tout a priori. Parce que si on s'appuie sur un a priori, on a quelque chose qui n'est pas philosophique. Tout a priori est à expulser. L'esprit humain est comme une feuille de papier blanc. Les idées qui viennent s'inscrire ne peuvent provenir que de l'expérience, car il n'y a pas d'idée innée. Tout vient de l'expérience. Mais on est proche de certaines perspectives aristotéliciennes. Tabula rasa, aucune idée innée contre Descartes, c'est bien évident. Et redécouvrir qu'est-ce qu'il y a de légitime, qu'est-ce qu'il y a de vrai. L'expérience implique la sensation et la réflexion. Perception par l'esprit de ses propres opérations. Voilà ce que c'est que la réflexion. C'est la perception par l'esprit de ses propres opérations. Eh bien, l'expérience implique sensation et réflexion. Il défend le plus grand bien de l'individu. La liberté du jugement. Quel est le plus grand bien de l'individu? C'est la liberté du jugement. C'est ça qui est le point de vue essentiel. L'individu doit être libre de juger selon la loi de la raison, sans aucune contrainte. Ça, c'est le principe absolu. Ce n'est pas un a priori, n'est-ce pas? Mais c'est son intuition dominante. Son intuition dominante, c'est cela. Vous voyez le passage de l'idée au jugement. C'est assez curieux et assez intéressant du reste. Donc il a une très bonne volonté puisqu'il défend le plus grand bien de l'individu. Le plus grand bien de l'individu, c'est la liberté du jugement. Laissez-moi libre, j'ai le droit de penser ce que je veux. C'est très juste. On doit respecter la liberté de l'individu. Donc tout ça, c'est assez intéressant dans une crise de voir comment il essaie de reprendre quelque chose de bon. Pour Locke, l'idée de Dieu n'est pas inné. C'est la raison qui nous mène à cette vérité certaine et évidente. il existe un être éternel qui est premier dans l'ordre de l'être et qui est intelligent. La lumière de la révélation s'ajoute à celle de la raison. La foi est un acquiescement à la révélation. Elle n'a pas d'autorité contre ce que la raison découvre, clairement et avec évidence. Alors ça, c'est justement là le point délicat et très intéressant du reste à bien préciser. Donc, la foi ne peut jamais aller contre la raison, ce que la raison découvre clairement et avec évidence. Et la foi n'a pas, non seulement ne peut pas aller contre ça, mais la foi n'a pas d'autorité. La foi vient confirmer ce que la raison dit. Et la foi est pour ceux qui sont incapables de le découvrir par la raison. Locke se voulait chrétien orthodoxe anglican et anglican orthodoxe. C'est la raison qui juge en dernier lieu. Oui, christianisme raisonnable. Donc il fait une confiance totale à la raison. C'est la raison qui doit tout donner. Tout le pouvoir de l'État. Donc ça, c'est les données très simples du point de départ. On voit qu'on revient à une position d'expérience, on revient donc à une position qui cherche à être réaliste. Ça, je crois que Locke veut cela. Et on met en pleine lumière ce que représente cette exigence de la liberté individuelle. Tout le pouvoir de l'État est borné aux soins du temporel. Il ne doit toucher en rien à ce qui regarde la vie future, le salut des âmes. Chacun doit être laissé à sa propre conscience. Donc, une autonomie absolue de la raison. Car l'entendement humain ne peut être contraint par quelque chose qui vient de l'extérieur. Ne peut être contraint par rien. Rien d'extérieur ne peut venir limiter l'entendement humain. L'immanentisme de la raison. Et en même temps l'expérience. C'est ça qui est un point très délicat à bien voir. Il ne dit pas c'est l'expérience de la réalité qui doit nous conduire. Non, c'est la raison. Alors, on voit que là, il peut y avoir quelque chose d'assez particulier. Donc, le pouvoir de l'État reste uniquement au niveau temporel. Cependant, on peut agir différemment à l'égard des catholiques et des athées. Là se trouve la limite de la tolérance. C'est là la limite de la liberté. C'est à l'égard de ces deux extrêmes. Parce que ces deux extrêmes nuisent aux hommes. Le catholicisme à cause de son dogmatisme et l'athéisme parce qu'il supprime la finalité. Donc là, on n'aura plus la tolérance, mais il faudra agir. Essayons d'entrer maintenant, si vous voulez, après avoir donné ces quelques éléments, je résume en disant ça, je crois que c'est vraiment les quelques éléments positifs de John Locke, selon sa conception même de l'entendement. C'est très simple, c'est très descriptif, hein, c'est pas autre chose que ça, il n'y a pas d'analyse. C'est une description pour essayer de voir comment se fait le développement. Alors nous allons maintenant entrer dans la théorie politique de John Locke. Dépasser le puritanisme, ce puritanisme qu'il a eu dans son enfance, c'est dans tout un milieu, donc c'est dans ce milieu qu'il faut comprendre la position de Locke à travers ce puritanisme de son enfance. Euh, Alors, il y a les tendances démocratiques, dit-il, les tendances démocratiques républicaines, tendances aristocratiques, les tendances d'un juste milieu et les écrits en faveur du droit divin. C'est au fond ces différents aspects où il va essayer, en face de ces diverses tendances, de décrire sa propre tendance. Et c'est comme ça qu'il les résume. C'est ça qui est intéressant. Essayer de préciser ce que représentent exactement ces différentes tendances. Alors on ne va pas entrer, si vous voulez, dans tout ce contexte historique qui serait intéressant. Parce que c'est à travers tout ce contexte historique, ces différents écrits au point de vue politique, que John Locke va essayer de préciser exactement sa position. La tendance démocratique, la tendance républicaine, qui est une tendance aristocratique, dit-il, la tendance d'un juste milieu, et puis un écrit en faveur du droit divin. Donc un écrit, si vous voulez, théocratique, position théocratique. Il résume de cette manière les quatre tendances devant lesquelles il se trouve. Historiquement. Alors, c'est ici où il faudrait voir chacune de ces tendances et comprendre comment, à l'égard de ces différentes tendances, il ne va être à l'égard d'aucune. Il va s'écarter de chacune. Donc, il va lutter contre toutes ces tendances pour essayer de découvrir quelque chose qu'il considère comme la seule position qu'il doit prendre. Alors c'est là, on va essayer de voir comment il va préciser ce point de vue-là. C'est dans son ouvrage que je vous citais tout à l'heure, ces ouvrages où il donne le point de vue, quand il donne le point de vue des deux traités du gouvernement. Les deux traités du gouvernement, parce que ce n'est plus l'entendement, mais la réflexion sur l'entendement humain est sous-jacente. Donc, dans ce discours sur le gouvernement, dans sa préface, le tome premier, il est justement contre une position qui existe déjà, et c'est seulement dans le tome 2 qu'il donnera l'origine du point de vue, de ce que représente le point de vue politique, les limites du gouvernement politique, et comment établir cette liberté de l'individu, sauvegarder la liberté du jugement de l'individu. Il va donc critiquer le fondement de ce qu'on appellera le point de vue de la paternité, une étrange fonction pour Locke. Pour Locke, les hommes possèdent tous une liberté naturelle. Mais contre un aspect de traditionnalisme qui a insisté sur le point de vue de la paternité. Alors il va là-dessus essayer de donner autre chose. Pour Locke, les hommes possèdent tous une liberté naturelle car ils ont tous une égalité de nature. Ils peuvent tous participer aux mêmes droits, aux mêmes privilèges. Adam ne peut être la fontaine fondamentale, la source de tout pouvoir. Dans le point de vue de la paternité, on ramenait à Adam, donc à la justice originelle. Quelle est l'origine du pouvoir politique? Puisque ce ne peut pas être ce point de vue de la paternité comme source. Locke part de l'état de nature et de la condition naturelle des hommes. L'état de nature est un état de liberté et d'égalité, régi par un droit de nature qui s'impose à tous, rien qu'en se référant à la raison qui est ce droit. Donc il y a un état de nature, hein, faisons attention, ce sont des expressions des théologiens complètement reprises par l'homme. De nature, on sait très bien ce que ça veut dire, c'est la nature prise dans son état uniquement selon ses principes. Alors, pour lui, parce qu'au point de vue philosophique, ça n'a pas beaucoup de sens, un état de nature. Mais pour lui, ça veut dire justement cette espèce de réflexion sur ce que c'est que l'homme dans ce qu'il a de plus lui-même. Donc l'état de nature est un état de liberté et d'égalité régi par un droit de nature qui s'impose à tous. Rien qu'en se référant à la raison, qui est ce droit, l'humanité entière apprend que nul ne doit léser autrui dans sa vie, sa santé, sa liberté, ses biens. Donc ce droit de nature qui repose sur la raison, c'est respecter les droits de l'autre, la justice au fond, c'est l'aspect de la justice. Ce respect, nul ne doit léser autrui dans sa vie, sa santé, sa liberté, ses biens. Chacun doit assurer l'exécution de ce droit de nature en puisant de façon efficace ceux qui les en punissant d'une façon efficace ceux qui les transgresseraient. Vous voyez, la liberté consiste à voir qu'on doit respecter ses droits, et si quelqu'un ne les respecte pas, alors on doit s'opposer à lui. Ce n'est pas une pure passivité. Hein. Vous voyez comme c'est délicat. Parce que chacun a la propre raison de son propre manière de se défendre. Hein. Donc chacun doit assurer l'exécution de ce droit fondamental qui est le respect à l'égard de l'autre. De sorte qu'il devra punir de façon efficace ceux qui le transgressent. En cet état, il peut y avoir des promesses, des engagements. Car la vérité et le respect de la parole donnée appartient aux hommes comme tels. Donc, nous faisons partie, si vous voulez, de cette société où le contrat reposera sur la parole de l'autre, la promesse. En cet état, il peut y avoir des promesses, des engagements, car la vérité et le respect de la parole donnée appartient aux hommes comme tels. Donc, état de nature, l'homme comme tel. Et l'état de nature, c'est vraiment l'homme comme tel. Le droit de propriété fait partie intégrante de cet état. Dieu a donné en commun la terre à tous, et tout ce qu'elle contient est aux hommes. Mais pour user de ce droit, pour user de ce don avantageusement, une appropriation individuelle est nécessaire. Cette fameuse question du droit de propriété et de la question de l'usage. La terre ne nous appartient pas puisqu'elle est à Dieu. C'est Dieu qui l'a créée. Mais l'homme peut en user. Alors il y a cette chose très très nette, Dieu a donné en commun la terre à tous, et tout ce qu'elle contient est aux hommes. Mais pour user de ce don, d'une façon avantageuse, une appropriation individuelle est nécessaire. L'homme porte en lui-même la justification principale de la propriété. Parce qu'il est son propre maître et le propriétaire de ce que représente tout ce qui est utile pour lui, et dans ce qu'il fait et du travail qu'il accomplit. Donc l'homme propriétaire de tout son propre labeur et de tout l'usage qu'il peut faire des biens. Dans le premier état, qui est l'état de nature, l'homme n'a pas lieu de désirer posséder plus qu'il ne lui est nécessaire pour son entretien et pour sa famille. Alors, vous voyez, cette question qu'on retrouve des choses de Platon, hein, parce que Platon s'était posé exactement la même question. Et on retrouve cette espèce d'expliquer comment la lutte a pénétré dans le monde, comment l'injustice a pénétré. Alors on regarde cet état de nature, évidemment cet état de nature, c'est l'homme dans sa raison, c'est l'homme qui réfléchit sur ses propres biens, ce qu'il reçoit de, ce qu'il a reçu de Dieu, puisque Dieu l'a mis dans l'univers, il a cette possibilité de pouvoir jouir de tout, mais seulement selon une certaine mesure, parce qu'il doit respecter les autres. Dans le deuxième état de nature, qui coïncide avec l'intervention de la monnaie, les hommes éprouvent le besoin d'agrandir leurs possessions. Ça aussi, c'est le propre d'Aristote. Il reprend donc exactement cette question-là. C'est le point de vue de la monnaie qui va tout détraquer. Puisque à partir de la monnaie intervient une possibilité d'un besoin infini. Tant que la monnaie n'est pas là, chacun est heureux de labourer son petit coin de terre. Et il laboure ce qu'il lui faut, pas plus. État de nature. Il respecte le voisin. La monnaie intervenant va intervenir la possibilité d'un agrandissement infini. Je vais expliquer ce que représente la lutte d'aujourd'hui. Expliquer ce qu'est la crise, si vous voulez, puisque c'est ça, il faut expliquer cette crise. Donc, dans le deuxième état de nature, qui coïncide avec l'invention de la monnaie, les hommes éprouvent ce besoin d'agrandir leurs possessions. Et ceci, d'une façon sans limite, c'est l'utilisation de la monnaie au-delà des biens directs qui sont nécessaires pour l'individu et la famille. Donc il est admis que la possession de la terre comporte des disproportions et des inégalités. L'appropriation privée conduit à l'accumulation illimitée. Et ceci engendre les rivalités et les querelles. Puisqu'il y en a un qui possède énormément et l'autre à côté ne peut plus rien posséder du tout. Alors, ce qui me semble intéressant au point de vue philosophique, c'est de montrer que justement, c'est le point de vue de la monnaie qui va faire que le droit de propriété ne sera plus limité aux besoins naturels. Et qu'intervient alors à ce moment-là une espèce de possibilité d'aller à l'infini dans l'ordre de la possession. Je vous dis, c'est la même raison que donne Aristote. Il ne cite pas Aristote, mais au fond, il l'a lu, c'est évident. Exactement comme tabula rasa pour l'intelligence et le point de vue de l'expérience. Donc, il y a un fondement aristotélicien, aussi bien du côté de la connaissance que du côté de cette vision politique. Il y a un fondement aristotélicien, on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas tout à fait la même perspective. Dans Locke, vous ne retrouvez absolument pas le point de vue de la finalité. Tout s'explique uniquement par l'exercice que nous pouvons faire, l'usage que nous pouvons faire des biens qui nous sont donnés. Le droit de propriété demeure, donc demeure lié à la condition naturelle de l'homme. C'est de la nature que chacun tient le pouvoir de protéger ce qui lui appartient. Pourquoi le passage de l'état de nature à l'autre, c'est-à-dire celui de société? Donc l'état de nature est celui de société qui intervient par le point de vue de la monnaie. S'il a tant de privilèges dans l'état de nature, c'est vrai, s'il a l'état de nature, pourquoi qu'il ne reste pas dans l'état de nature, puisque l'état de nature est parfait? La réponse est évidente pour Locke, car dans l'état de nature, il n'a qu'une jouissance précaire est constamment exposée aux empiétements d'autrui. C'est un état dangereux et incertain. Alors, c'est encore, vous voyez, comme c'est difficile quelquefois à comprendre parce que la logique n'est pas tout à fait présente. L'état de nature prépare l'état de société et considère que c'est normal. L'état de nature doit se devenir, si vous voulez, parfait grâce à la monnaie. Alors on passe à un état politique, tandis que l'état de nature reste au niveau famille. C'est le passage de la communauté familiale à la communauté politique. Et ce passage est un aspect nécessaire pour lui. Ce n'est pas un mal. Bien qu'on constate qu'à cause de la monnaie interviennent les luttes et les rivalités. Alors, il va préciser. À cet état de nature, il manque premièrement une loi établie, fixée, admise comme un critère du bien et du mal. Dans l'état de nature, il n'y a pas de loi. La famille n'applique pas de loi. Tandis que dans l'état de société et dans l'état politique, il y a des lois. La loi a un privilège unique, c'est qu'elle permet de fixer ce qui est bon et mauvais. Deuxièmement, dans cet état de nature, il manque un juge compétent, impartial, pour préciser où est la justice. Troisièmement, dans cet état de nature, il manque une force coercitive pour mettre à l'exécution la sentence du juge. Alors que dans l'état politique, tout cela va intervenir. Si cela n'existe pas, la conservation de la propriété de l'homme individuel est très loin d'être assurée. C'est pour qu'elle le soit, qu'elle invente une communauté politique. Donc pourquoi la communauté politique ? C'est parce que dans l'état de nature, on est dans l'insécurité. Le passage de l'état de nature à l'état politique est commandé par la raison de sécurité. C'est la raison de sécurité qui permet cela. Parce que grâce à la loi, grâce au juge, grâce à la force coercitive, on pourra punir le coupable. Et on saura avec exactitude ce que représente le point de vue. Donc c'est la force coercitive, c'est le point de vue de la sécurité qui va permettre ce passage de l'un à l'autre. Alors, comment va se faire donc ce point de vue de la communauté politique ? Réaliser un contrat. Il faut la majorité pour décider. Voilà ce qui donne son sens à ce que la loi existe. Donc il faut la majorité. Ça repose sur la majorité. C'est la majorité qui peut établir une loi. Puisque il y a une nécessité de passer de l'état premier de nature à l'état politique. Comment se fait ce passage ? Comment se réalise ce passage ? C'est la réalisation d'un contrat. Le contrat est capital, c'est lui qui constitue la communauté. Mais on a vu la nécessité de passer, maintenant on regarde quelle est la forme. Qu'est-ce qui fait une communauté ? Eh bien c'est le contrat. Et le contrat ne peut exister que grâce à la majorité. Et c'est ça qui donne un sens à ce qu'on admet. La loi, c'est un contrat. Le consentement du peuple, voilà le fondement exclusif, irremplaçable de la légitimité. Une loi est légitime en fonction du consentement du peuple, en fonction de la majorité. La monarchie absolue ne peut donc à aucun titre constituer une forme de gouvernement légitime. Que c'est justement le consentement du peuple qui est le fondement exclusif. Il ne dit pas qu'il y a diverses formes de gouvernement, vous voyez, c'est ça qui est très curieux. Ce libéralisme devient quelque chose de très intransigeant. Puisque ne peut exister que ce passage de l'état de nature à l'état proprement politique par le point de vue de la majorité. Et la majorité, c'est-à-dire le consentement du peuple, c'est le point de vue absolu, c'est la seule chose qui donne la légitimité. Vous voyez, le fondement de l'autorité, posez-vous toutes ces questions-là, c'est dit, encore une fois, d'une façon tout à fait. Il y a comme une espèce de ligne qu'on suit dans une espèce de description. Dans l'état de nature, l'homme a deux pouvoirs. Celui de faire ce qu'il juge à propos pour sa propre conservation. Celui de punir toute infraction à la loi naturelle. En entrant dans le celui donc de punir toute infraction à la loi naturelle, en tant que dans la connaissance les hommes ont la possibilité de se diriger eux-mêmes. Donc on va rejeter tout ce qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, limiter la liberté de l'homme. C'est preuve de l'état de nature. Mais cet état de nature, parce que justement il n'y a pas de loi, ne peut pas arriver à garder une stabilité. Il demeure instable. Il n'y a pas de stabilité. La stabilité n'est pas la nature. La stabilité, c'est la loi. C'est ça, je crois, qui est au cœur. C'est là où on voit très bien que, tout en revenant à l'expérience, en réalité, ce n'est pas la réalité que nous touchons, ce n'est pas la nature humaine, c'est la loi qui va être au-delà de la nature. C'est la loi qui donne la stabilité. Et c'est la sécurité qui finalise. Les hommes associés peuvent établir la forme de gouvernement désirée. Locke écarte tout pacte de soumission, car il établit entre justement les différents, celui qui gouverne et celui qui gouvernait, une espèce d'entente qui est établie, qui se reporte sur le point de vue de la majorité. Et c'est cela qui va être la sauvegarde de la liberté. La sauvegarde de la liberté est donc dans la majorité. Soyons du bon côté. Puisque ceux qui sont de l'autre côté, ça n'entre pas en vue. Oui. Ça n'entre pas en vue. La sauvegarde de la liberté, c'est ça, c'est la liberté, puisque c'est cela seulement qui donne le fondement propre. Alors, il va se poser la question, y a-t-il un droit de résistance, d'opposition ? A-t-on la possibilité de s'opposer quand on arrive à des positions impossibles ? Alors, il dit ceci. Les gouvernants, en agissant contre la fin par laquelle ils ont été institués, usant de la force sans autorité, se sont rendus coupables de rébellion au sens propre. Donc la rébellion, c'est quand justement ceux qui gouvernent agissent contre la fin pour laquelle ils ont été constitués, usant de la force sans autorité. Et cette fin, c'est la sécurité. Alors il dit le droit redoutable qui est justement le fait de résister. Ce droit redoutable que de résister, c'est la négation de tout ordre établi, appel à la subversion de tout régime légitime. Locke le sait, mais il considère que supprimer ce droit, ce serait encore plus terrible. Donc il reconnaît ce droit redoutable. Ce droit redoutable de la résistance, puisque c'est la négation de tout ordre établi. C'est du moins la possibilité de supprimer l'ordre établi. Mais vous voyez bien, on a le droit de résister au moment où ceux qui gouvernent ne sont plus dans la légitimité, c'est-à-dire ne sont plus conformes à ce que représente la majorité. C'est très actuel, toutes ces choses-là. Et alors à ce moment-là, le droit de résistance, le droit redoutable de résister devient donné. Et il le dit. Hein. Locke sait bien qu'il considère que supprimer ce droit, ce serait encore plus terrible. parce qu'alors on tomberait dans une tyrannie, puisque ceux qui sont établis pourraient à ce moment-là faire exactement ce qu'ils veulent. Alors, notez également qu'il distingue le pouvoir législatif et exécutif. Le pouvoir législatif, c'est le principal, pouvoir suprême, l'âme du corps politique, dit-il. Il représente le consentement de tous. Il demeure inaltérable. Et il n'est pas toujours en acte. Alors, pouvoir législatif, puis le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif implique un pouvoir discrétionnaire en vue du bien commun, un principe subordonné au pouvoir législatif. Le peuple garde le pouvoir résiduel, il détient une souveraineté potentielle. Et c'est cela qui explique la possibilité de résistance. C'est que le peuple gardera toujours la souveraineté potentielle. Vous voyez que c'est toujours lui qui, en définitive, va décider du sort de la communauté politique. C'est lui qui donne l'autorité par la majorité à celui qui gouverne. Donc, si celui qui gouverne n'est plus dans le sens qu'il a dit, à ce moment-là, il y a le droit de la résistance. Vous voyez qu'il y a là quelque chose qui est au fond très intéressant à regarder, hein, parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Il a repensé à sa manière ce que représente d'une part la connaissance et d'autre part le point de vue politique. Où c'est très difficile à saisir, puisque de fait il n'y a plus de nature au sens absolu, il n'y a plus de finalité, il n'y a que la liberté du jugement. Où c'est très difficile à saisir, c'est de comprendre justement cette souveraineté potentielle qui est l'addition de tous les individus, la majorité, l'addition de